Il est 8h21.
Le 7-9 de France Inter. Vous êtes 3 900 000 auditeurs à écouter chaque matin la première matinale de France. À retrouver aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Et l'invité du grand entretien de la matinale d'Inter est le directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Alexandra Ben Saïd aura la parole dans une dizaine de minutes. Vous l'aurez, vous, amis auditeurs, au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et via l'application France Inter. Bonjour Martin Hirsch.
Bonjour Nicolas Demorand.
Vous parliez il y a quelques semaines de la mue douloureuse de l'hôpital avec un sentiment, je vous cite encore, qui va de la lassitude à la souffrance chez les personnels qui font vivre cette institution cruciale de la République. Dans le monde daté d'aujourd'hui, ce sont les directeurs d'hôpitaux qui disent leur ras-le-bol, leur blues, le fait d'être constamment mis en doute dans leur gestion. Hôpital bashing, directeur bashing, traitement injuste, disent-ils, de la part des médias. De quoi souffre, d'après vous, l'hôpital en France ?
Avant de souffrir, d'abord, l'hôpital fait bien son boulot, c'est bon de le rappeler. Moi, ça m'a beaucoup frappé jusqu'à il y a un an dans les enquêtes de satisfaction et de confiance, l'hôpital était en tête, hein, devant la radio publique, devant les autres services publics. Il a diminué au cours de l'année, probablement parce que les inquiétudes qu'il y a à l'hôpital ont eu une répercussion sur ce que pense ensemble de patients. Mais d'abord, il fait bien son boulot, et ensuite...
Le malaise vient d'où, alors ?
Le malaise vient de plusieurs choses. Premièrement, des transformations extrêmement rapides. Avant, quand on était opéré, on passait plusieurs nuits à l'hôpital. Aujourd'hui, l'hôpital doit s'adapter pour faire en sorte qu'on rentre le matin, on sorte dans l'après-midi pour maintenant une intervention sur 3, une intervention sur 2 chirurgicale. Donc ça change beaucoup les organisations et le rythme de travail. La deuxième chose, c'est qu'il y avait un modèle d'organisation hospitalière avant qu'on connaissait le mandarina, la surveillante hospitalière, quoi, tout un système de management et de gestion, j'allais dire vieille école, qui n'est plus du tout adapté. Et on est encore dans le tâtonnement de savoir quels sont les modes de relation. On ne sait pas encore bien travailler en équipe à l'hôpital. Et ça crée des difficultés. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est bien sûr qu'on est aux tensions, entre les tensions de tout, voilà. Tensions économiques, tensions technologiques, tensions de l'augmentation du nombre de patients.
Donc ça tension crée... Tensions budgétaires peut-être aussi.
Tensions budgétaires. Il faut avoir conscience parce que l'hôpital sur lequel on a tendance à taper, ces dernières années, c'est probablement le seul secteur qui a augmenté, pardon d'utiliser ce mot qui a l'air bizarre pour les malades, dont la productivité a augmenté si fort. Moi, je vois l'assistance publique, 2% de malades de plus chaque année avec les mêmes effectifs. C'est ça ce qu'on a vécu ces dernières années. Donc, ceci est possible si on se transforme suffisamment, si on donne plus de souplesse. Donc aujourd'hui, on a un moment où on se prépare à cela, à la deuxième étape de la mue, si je puis dire.
Voilà. Donc, vous le disiez, il y a un modèle ancien qui est, définitivement derrière nous. Il y a une mue qui est en cours. On va vers quoi exactement ? Vers quel autre modèle d'hôpital ?
Alors, je dirais la première chose, on va vers un hôpital qui soit... je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est tellement important et c'est tellement tranchant pour la France, qui soit plus intégré avec la médecine de ville. Vous entendez tous les matins de se dire est-ce que les centres d'urgence peuvent fonctionner, pourquoi on ne va pas chez son médecin généraliste, etc. Je pense que les autres pays ont changé. Dans les autres pays, un hôpital n'est plus simplement un hôpital. Il n'y a plus l'hôpital avec ses murs d'un côté, le cabinet de ville de l'autre. Il y a des systèmes intégrés où il y a autant de médecins dans une même équipe qui travaillent plutôt côté ville ou côté hôpital. Et ça, pour la prise en charge des malades, c'est très différent. Et donc, ça remet en question les statuts habituels des médecins. Je suis médecin de ville libéral, je suis médecin hospitalier, salarié, etc. Et on ne sait pas encore comment faire. On ne sait pas encore comment faire. Parce qu'on est tellement habitué, les uns payés à l'acte, les autres salariés au mois, qu'ils ont l'impression qu'il y a un mur entre eux, intangible. Donc, je trouve que c'est un des grands enjeux du mois qui vient de trouver
pourquoi
la solution
le mois
à ça.
Dites-nous pourquoi le mois ? Parce qu'il y a un calendrier politique
oui,
de réforme
que, quoi,
de l'hôpital.
Oui, parce que vous avez entendu, comme moi, le président de la République, dans une émission de télé il n'y a pas longtemps, dire fin mai, début juin, on annoncera un certain nombre de choses. Et le Premier ministre et la ministre de la Santé avaient dit en février, on se donne 3 mois pour proposer un certain nombre de choses.
Et ce mur qui a l'air porteur oui. et qui divise deux types de médecine et donc les parcours de soins et de santé, à votre avis, va-t-il sauter dans cette réforme ?
Je pense que c'est indispensable et je ne crois pas être le seul à faire. Alors un mur, c'est pas comme le mur du Berlin, hein, on l'écroule pas d'une seule journée, mais je pense que on a quelques mois pour bâtir plus qu'un mur, un espace commun entre les deux. Et ça va changer la vie des malades et la vie des personnels. La deuxième chose, c'est qu'on va avoir un hôpital qui devra s'adapter davantage. Là aussi, il y a quelques semaines, vous rappeliez, c'était l'hôpital surchargé parce que les épidémies, on ne sait plus où mettre les malades. On a déjà connu ça pour les hôpitaux pédiatriques, où pendant un mois, on s'arrête de faire du soin programmé pour prendre en charge toutes les épidémies de bronchiolite. Tout d'un coup, l'hôpital est orienté sur la bronchiolite. Je pense que les hôpitaux vont avoir des activités plus saisonnalisées. Donc pendant les 3 semaines ou le mois de la période de grippe, on fera moins d'interventions chirurgicales qui peuvent attendre 1 mois ou 2 mois. Et donc, on dépassera aussi la frontière des lits au sein de l'hôpital pour qu'il y ait plus de lits consacrés à la grippe, etc. Troisième chose, l'hôpital...
Et ça, c'est pour éviter de le vivre de manière négative, comme en Grande-Bretagne, où il faut tout arrêter en urgence pendant un épisode de grippe, parce que système est saturé et dépassé.
Il faut dire que la Grande-Bretagne, ils ont fait un truc, c'est qu'ils n'ont pas cru au service public. Ils ont enlevé 3 points de PIB de leurs hôpitaux, et ils se demandent pourquoi il y a des listes d'attente de 6 mois, 9 mois, 1 an. Ce n'est pas le cas en France.
Dans Libération, Martin Hirsch, ce matin, on peut lire une tribune de Philippe Juvin, chef du service des urgences à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, député européen LR-PPE. Il craint un décrochage brutal des urgences en France qui sont saturées en permanence, ce sont ces mots. On va vers ce décrochage brutal aujourd'hui ?
Non mais c'est toujours la même chose, on va vers le décrochage si on ne fait rien et si on reste les bras ballants.
Non mais lui il dit que ça fait déjà tellement d'années qu'on dit qu'on y va, qu'on va bien finir par y arriver.
Oui mais je crois pas, je serais pas aussi pessimiste que Philippe Juvin.
C'est un acte de foi ça de votre part ou vous avez des éléments pour l'étayer ?
C'est pas un acte de foi, je ne fonctionne pas à la foi. C'est parce que si on décortique le sujet, aux urgences il y a 2 catégories de patients. Il y a une première catégorie de patients assez nombreuses qui sont celles et ceux qui viennent. Il y en avait un avec lequel je discutais dans les couloirs de Radio France il n'y a pas longtemps. Besoin de... on s'est cassé quelque chose en tombant du trottoir ou on a un peu de fièvre, etc. Pour lequel il y a besoin d'être vu comme si on allait chez un médecin généraliste. Donc ça, on y répondra, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on y répondra quand on aura des centres mixtes hôpital-ville permettant de prendre en charge ce flux. Ce flux a besoin de ne pas attendre trop longtemps, a besoin de pouvoir avoir une petite radio, d'avoir un peu d'examen biologique, etc. Et puis il y a une deuxième catégorie de patients, qui vont aller aux urgences avant d'être hospitalisés. Et pour cela, on a besoin, et c'est ce que je disais là aussi il y a un instant, on a besoin de faire en sorte que quand leur afflux est important, l'hôpital puisse s'adapter, se mettre en position 2, en position où on reçoit moins de malades pour d'autres choses. Et...
Tout ça est organisable. Pas de décrochage
brutal.
Forte
tension. Effectivement, je suis d'accord avec Juvin. Si on fait rien, ça ira de mal en pis. Mais vous voyez, à l'assistance publique, dans l'ensemble des hôpitaux de la paix, on a vu le nombre de patients allant aux urgences augmenter de 4-5% chaque année. Et pour autant, on n'a pas dégradé le temps d'attente des patients. Donc on y a fait face. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse diminuer ce temps. Voilà, c'est un travail sérieux à faire, mais c'est un travail possible.
Donc Philippe Juvin doit être rassuré par vos propos ce matin.
Bon, Philippe Juvin, et je crois qu'il n'a pas besoin d'être rassuré. Je suis sûr qu'il partage cela. Il a raison de mettre la sonnette d'alarme, mais pas la sonnette d'alarme pour se dire c'est inéluctable, la sonnette d'alarme pour dire on va y arriver.
Une étude qui a été faite par Jonathan Freund, médecin aux urgences de la Pitié-Salpêtrière à Paris, montre qu'il y a 10% d'erreurs médicales aux urgences. Vous confirmez ce chiffre ?
Ça a été publié dans un des plus grands journaux jamais. Mais allez jusqu'au bout de la pensée. Il dit qu'en général, il y a 10% d'erreurs et qu'on peut réduire, oui, ces 40% d'erreurs.
Je vous interroge sur le point de départ. 10% d'erreurs médicales aux urgences.
Oui, oui, oui.
Et un taux qui peut être baissé drastiquement
de 40%
si les médecins s'organisent
pour parler entre eux
et parlent ensemble et donc font des réunions en somme.
Mais c'est fabuleux ce papier. J'étais avec Jonathan Freud il y a pas longtemps dans ces urgences quand il racontait cela. Alors là aussi, si je puis dire, c'est un lien avec ce par quoi vous commenciez, le malaise. Les professionnels ont l'impression que ce temps inutile qui est en fait indispensable, ce temps où on se pose quelques minutes pour pouvoir discuter des cas des patients, a disparu. Vous vous rappelez, c'était le débat qu'on avait aussi quand j'ai réorganisé le temps de travail à la paix. Donc là, je dis que ce n'est pas facile à faire, mais c'est effectivement indispensable parce que ça fait du bien au personnel, mais surtout du bien aux malades. Il faut qu'on soit capable de réorganiser ces temps collectifs. Donc tout le sujet compliqué, mais auquel on s'attaque, c'est de pouvoir débarrasser les médecins de temps inutile, d'où le programme d'informatisation. Aujourd'hui, dans le boulot des médecins, il y a du boulot administratif. Comme dit Juvin ce matin, il y a « je dois décrocher moi-même mon téléphone pour trouver une chambre pour mon malade ». Et Philippe Juvin dit « à la paix maintenant, il y a des mots barbares ». Bed managers qui font ça à la place du médecin.
Les lits, donc.
De la même manière, on met l'informatisation pour éviter que ça soit le médecin qui soit comme un caissier à faire code B24812 pour monsieur Demorand, etc., qui va donner ce tarif-là pour que ça soit fait automatiquement et qu'il y ait plus de temps pour les malades et plus de temps pour le travail collectif.
Mais c'est incroyable de se dire qu'une réunion de quelques minutes entre médecins aux urgences fait à ce point baisser le taux d'erreur médicale.
C'est ce que je disais comme commentaire dans le papier.
Vous allez généraliser ça ou pas, le point de réunion de quelques minutes?
Oui, oui. Je disais, c'est à la fois incroyable. Oui, on va le généraliser. Pourquoi est-ce qu'on va le généraliser? D'abord, cette étude, elle n'a pas été faite uniquement à la Pitié-Salpêtrière, mais dans 6 services d'urgence. Effectivement, moi, quand on m'a mis il y a quelques semaines cet article sous les yeux, j'ai dit la première chose, c'est faisons-le dans tous les services, puis soyons partageurs, suggérons aux autres services de le faire s'ils ne le font pas déjà. Je ne sais pas comment ça fonctionne.
Donc, ailleurs qu'à la paix. Les urgences manquent de temps, pas de personnel.
Mais ça dépend. Il y a des endroits où j'ai trouvé des services d'urgence où ça manque de personnel et des autres endroits où c'est plutôt des questions d'organisation ou d'autres choses. On ne peut pas généraliser à ce point-là.
Martin Hirsch, directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Non, vous n'avez pas l'air de l'avoir. Et dans le grand entretien de France Inter ce matin. Alexandra Ben Saïd.
Martin Hirsch, moi je suis surprise de vous entendre parler de réorganisation et pas d'argent. Les personnels des hôpitaux disent tous c'est super ces réorganisations, plus de productivité, mais on nous demande aussi toujours plus d'économies. Il n'y a pas un sujet de budget quand même? Il n'y a pas des chiffres à demander?
Il y a un sujet de budget, bien sûr, mais moi, sur ce sujet-là, comme sur d'autres, je pense que quand on n'est pas suffisamment organisé, transformé, souple, réactif, vous rajoutez de l'argent, ça ne sera pas mieux. Donc, je pense qu'il faut faire les deux à la fois, si je puis dire. Et c'est ce que je dis d'ailleurs en interne à l'assistance publique. Ne dites pas simplement que c'est la faute du gouvernement, de l'objectif de dépenses, du mode de tarification, etc. Il y a aussi la remise en cause de nos organisations, celles qui dépendent de nous, celles qui dépendent parfois de statuts qui sont trop rigides pour fonctionner. Et puis ensuite, il faut pouvoir effectivement mettre de l'argent qui accompagne les choses qui se transforment. Mais regardez, les budgets ont augmenté pendant des périodes pendant lesquelles les choses ne se sont pas améliorées. Donc l'argent va avec l'organisation.
Une question sur la dépendance. Nous allons mourir vieux, très vieux, pas toujours en très bon état.
Mais ça reste une bonne nouvelle.
Et ça reste une bonne nouvelle. Mais à votre avis, cette deuxième journée de solidarité dont on parle, ça fait à peu près 2 milliards d'euros. C'est une bonne, c'est une mauvaise idée? C'est à la hauteur des enjeux de la dépendance, du financement?
Écoutez, j'allais dire, c'est pas complètement mes oignons de savoir comment on finance la dépendance.
En même
plus
temps,
en tant que citoyen que responsable d'hôpital public,
En même temps, la grande vieillesse, vous la voyez dans vos hôpitaux.
Oui. Non, mais je parle du mode de financement. Est-ce qu'il faut une journée de solidarité ou autre chose? On a entendu. Moi, ça me choque absolument pas qu'il y ait une journée de solidarité. Voilà. Donc ça ne me choque pas. Est-ce que c'est à la hauteur des enjeux? Je dirais la même réponse que tout à l'heure. C'est à la hauteur des enjeux. Si on est capable de s'organiser pour qu'il y ait des patients qui n'aient pas comme patients âgés, qui n'aient pas comme seul recours l'hôpital et qu'on puisse, c'est ce que je disais au tout début, hein, je pense que c'est vraiment la clé de tout, le lien entre la ville, l'hôpital, l'ensemble des professionnels pour faire en sorte que les patients, même âgés, restent le plus longtemps chez eux sans être isolés. Tout à l'heure, on donnait cette étude qui montrait que quand les médecins discutent entre eux, 40% d'erreurs en moins. Mais de la même manière, vous seriez étonné par une étude qui compare l'effet de médicaments anti-cancer très chers par rapport aux médicaments standards qui montrent une petite augmentation. En revanche, là, on voit la meilleure augmentation ou la meilleure amélioration de l'espérance de vie, c'est quand les patients vivent à deux au lieu de vivre seuls. Donc la lutte contre la solitude, l'organisation sont aussi importantes que les questions de moyens.
Allez, 01 45 24 7000, vous avez la parole. Bonjour Guy.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Bonjour Monsieur Hirsch.
Bonjour.
Je suis médecin retraité et je suis de l'autre côté du stéthoscope, c'est-à-dire je suis malade. Donc j'ai vu, en 65 j'ai été nommé externe et j'ai vu se dégrader progressivement les conditions de vie du personnel soignant et aide-soignant, et c'est-à-dire infirmière. Et je voulais savoir ce que vous comptez faire pour, disons, revaloriser leur statut, leur niveau de vie aussi. Par contre, félicitations pour tout ce que vous avez dit avant, c'est-à-dire la modernisation des petites unités. Et entre parenthèses, j'étais responsable d'un hôpital local dans la Bourgogne et je vous prie de croire que ça nous faisait un lien entre hôpital et ville extraordinaire et bien sûr.
Merci.
Vous avez raison de dire qu'il y en a plus dans deux têtes que dans une.
Merci, voilà. Merci Guy. Martin Hirsch, vous réponds sur les infirmières.
Ouais, je réponds deux choses. Première chose, en 65, depuis 65, quand vous étiez externe, vous avez peut-être vu la dégradation, mais en 65, il y avait encore des chambres communes pour les malades. À l'hôpital d'enfants de Necker, à 300 mètres d'ici, c'était des salles pour 40 enfants. Aujourd'hui, c'est des chambres individuelles. Donc des choses sont améliorées. En revanche, sur le salaire des soignants, vous avez raison, je le martèle tout le temps, on est un des seuls pays de l'OCDE dans lequel les infirmiers des hôpitaux publics ont un salaire inférieur au salaire moyen du pays. Et moi, je prône, et je pense que, et avoir des chances d'être entendu, je pense qu'il faut permettre à ces infirmiers et ces infirmières de pouvoir progresser dans leurs tâches, c'est-à-dire pouvoir réaliser des actes un peu plus complexes comme ils le demandent, avec une rémunération supplémentaires pour pouvoir le faire. Et ça, c'est un des éléments majeurs parce que ça reboucle avec ce que je disais, travail d'équipe, pas d'un côté les médecins, de l'autre côté les infirmières, mais une équipe qui prend en charge les patients et une équipe dans laquelle on est mieux rémunéré quand on prend des fonctions plus techniques.
Retour au standard. Bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Bonjour Monsieur Hirsch.
Bonjour.
Monsieur Hirsch, actuellement, il y a plus de monde à Avenue Victoria, à la direction de la PHP, qu'au ministère de la Santé. Si l'on prend l'ensemble des personnels de l'avenue Victoria et ceux qui se trouvent dans les centres hospitaliers, cela représente 40% de personnel non soignant à la PHP. Quand allez-vous enfin arrêter cette folie administrative? Quand allez-vous alléger ces strates, qui s'accumulent depuis des années pour qu'on puisse, à enveloppe égale, vous voyez, je vous parle même pas d'argent, à enveloppe égale, remplacer du personnel administratif par du personnel soignant.
Merci.
La santé n'est pas une
administration.
Merci Jean-Paul pour cette question portée par une très belle voix de radio en plus. Voilà. Martin Hirsch vous répond.
Alors quand, maintenant, d'abord c'est pas vrai, on n'a pas plus de monde qu'au ministère de la Santé. Mais il y a trois mois...
plus de soignants, moins de soignants que d'administratifs, c'était ça aussi la statistique.
Il y a plus de soignants qu'administratifs, mais effectivement il y a trois mois j'ai annoncé que nous quittions le siège historique de la PHP de l'avenue Victoria pour aller au cœur d'un hôpital, parce que je trouve que ceux qui travaillent à la tête de la paix doivent être au cœur de l'hôpital, dans un quelque chose de plus modeste, plus petit, avec des effectifs plus resserrés, parce que j'ai exactement la même préoccupation que vous. Pour autant, il y a besoin de personnel administratif technique dans les hôpitaux, sinon les médecins et les soignants ne peuvent pas faire leur métier. Mais on prend ça à bras le corps et donc nous déménageons pour nous installer au milieu de l'hôpital Saint-Antoine, sans chasser les médecins, mais dans un petit bâtiment à côté.
On est en ligne avec Vincent. Bonjour, bienvenue Vincent.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Alors j'aurais un témoignage à apporter et puis j'aimerais poser une question à la fin.
Allez-y.
Donc en fait, voilà, moi j'habite à Saint-Claude dans le Jura, une petite ville de 10 000 habitants. L'hôpital de Saint-Claude voit certains de ses services fermés. Ça concerne la chirurgie, ça concerne la maternité qui fait plus de 300 naissances par an et ça concerne également la pédiatrie. Ces fermetures sont dues à l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, qui, en l'occurrence, en ce qui concerne la région Bourgogne-Franche-Comté, est gérée par un directeur qui ne vient pas du tout du monde de la santé.
Bien compris. Avançons, Vincent.
Je crois que j'ai compris la question.
Très rapidement.
Avançons, s'il vous plaît.
Ouais, donc il est géré par ce directeur qui ne vient pas du service de santé, mais qui est là pour prendre un cachet et puis fermer les services et prendre le cachet.
Ma question,
en fait, qui concerne beaucoup d'hôpitaux en France, est-ce que pour sauver les petits hôpitaux de France, comme une ville de Saint-Claude, par exemple, est-ce que on ne devrait pas fermer justement les ARS?
Merci Vincent. Martin, hier, je vous réponds.
Vincent, même avec un ARS qui serait prof de médecine, etc., vous aurez souvent dans des petites villes une difficulté à attirer les médecins. Et souvent, la raison pour laquelle un service de chirurgie, une maternité, ne peut plus rester en sécurité, c'est parce que les médecins ne veulent pas exercer. Alors là-dedans, Agnès Buzyn a proposé quelque chose qui va prendre un tout petit peu de temps, qui est de faire en sorte que les médecins puissent travailler à la fois dans un grand centre hospitalier et puis un petit temps en ville ou un petit temps dans un petit hôpital, de telle sorte qu'il y a des équipes qui puissent faire vivre ce tissu de santé, ce tissu médical. Et c'est ça ce qui permettra d'aider les territoires.
Une dernière question, Martin Hirsch. Est-ce que la réforme du service public ferroviaire, la SNCF, pourrait un jour être un modèle pour la réforme des hôpitaux publics?
Alors, je ne crois pas qu'une comparaison soit pertinente entre des gares, des trains, et des hôpitaux
entre
et
deux
des
services publics.
Et des services médicaux.
Entre deux services publics?
Non, on n'est pas le même service public. Nous, on est un service public de dernier recours, on est un service public de solidarité. Le transport est important, mais ce n'est pas un service public, de solidarité. Ah. Donc nous, on peut avoir aussi besoin de souplesse, de changer nos organisations, mais on n'est pas du tout comparable au fonctionnement des trains et des gares, que je respecte par ailleurs, mais ça n'a rien à voir.
Mais alors, une réforme de même philosophie serait-elle envisageable? Ouverture à la concurrence et tout ce qui en découle, réforme des statuts, des personnels?
Mais nous, on a le problème inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas l'ouverture à la concurrence. La concurrence, elle existe depuis longtemps. Les cliniques privées existent. Et donc, on n'est pas dans cette situation à se demander si on va être soumis à la concurrence. On est dans une situation où, au contraire, on a un certain nombre de missions que personne d'autre ne veut faire. Des patients âgés en grande difficulté précaire, c'est le service public. On a besoin d'être conforté là-dedans. L'hôpital public restera public avec des valeurs publiques et avec la confiance du public, j'espère.
Merci Martin Hirsch d'avoir été au micro de France Inter ce matin.